L'OTAN a toujours été bien plus qu'une alliance militaire, déclarait dans le JDD dimanche Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, qui doit rencontrer aujourd'hui Donald Trump avant de célébrer les 70 ans de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Un 70e anniversaire qui se déroulera demain et jeudi à Washington. Quelle influence a aujourd'hui cette alliance de défense collective? A-t-elle toujours les moyens d'assurer notre sécurité? Bonjour Guillaume Lasconjarias, vous êtes historien et ancien chercheur au Collège de défense de l'OTAN à Rome. Tout d'abord, il faut rappeler dans quel contexte est né l'OTAN, donc en 1949, puisqu'on fête ses 70 ans.
Bonjour Guillaume Erner. Oui, effectivement, le contexte importe, puisqu'on ne peut pas comprendre l'Alliance Atlantique si on ne comprend pas le contexte dans lequel elle naît en 1949. 1949, c'est donc le début de la guerre froide, c'est le moment en fait du premier blocus de Berlin par les soviétiques, et les Européens en fait se mettent d'abord en ordre de bataille. Et le fait que les Européens à l'époque se mettent en ordre de bataille est intéressant parce que c'est sur cette ambition européenne que les Américains vont véritablement se pluguer, comme on dirait aujourd'hui, avec ce qu'on appelle la résolution Vandenberg, qui leur permet de créer des alliances militaires en temps de paix, ce qui était une première nouveauté et qui les sortait de l'isolationnisme. C'est une chose intéressante quand on regarde ça rétrospectivement. Et puis le traité de Washington, donc qui naît en avril 1949, qui tourne autour d'un article essentiel, qui est l'article 5, qu'on appelle l'alliance défensive, qui permet en fait aux alliés de se porter mutuellement secours. C'est un peu, si vous voulez, la question des mousquetaires. Un pour tous, tous pour un.
Et alors, comment fonctionne l'organisation, son mode de gouvernance? Comment se prennent les décisions, d'ailleurs, Guillaume Lasconjarias?
Alors, il y a une origine ou une originalité pour l'OTAN, c'est que on ne vote pas à l'OTAN. C'est la pratique du consensus. D'accord. C'est-à-dire que il faut imaginer en fait que c'est un gros travail de pas forcément de lobbying, mais de convaincre ses alliés que les résolutions que l'on porte sont les meilleures pour tous. Et alors, il y a ce qu'on appelle la procédure de silence, qui fait que lorsque l'on est d'accord, on peut le dire. Lorsque l'on n'est pas d'accord, on le dit aussi, et dans ces cas-là, c'est le plus petit dénominateur commun qui s'applique.
Et depuis 1949, donc 70 ans se sont écoulés, le mur est tombé, l'Union soviétique aussi, et l'OTAN, elle est restée. Alors évidemment, elle a dû évoluer. Quelles ont été les principales évolutions depuis la chute de l'Union soviétique?
Alors effectivement, il y a trois temps qui me paraissent importants à souligner. Alors le premier, c'est 1991 et la rupture, puisque finalement, l'OTAN se retrouve face à un adversaire qu'elle se prépare à combattre et qu'elle n'a finalement jamais affronté véritablement. Et en 1991, vous avez un moment d'inquiétude ou d'interrogation sur faut-il pérenniser l'alliance? C'est d'ailleurs une question en fait que régulièrement aujourd'hui on se pose. Et vous avez à ce moment-là deux écoles qui se tiennent. La première, c'est celle qui est définie par un sénateur américain qui s'appelle Richard Lugar et qui dit NATO must go out of area or out of business. Donc sortir de sa zone euro-atlantique ou finalement être condamné à être sans aucune pertinence. Et la deuxième, c'est la doctrine un peu Clinton qui vise en fait à utiliser l'OTAN pour mieux arrimer les anciens pays du pacte de Varsovie, les anciens pays de l'Est de l'Europe finalement, à l'architecture de sécurité européenne et notamment les inclure un petit peu dans le processus de ce qui sera aussi l'Union européenne. Le deuxième temps, c'est celui des opérations dans la deuxième moitié des années 90, les Balkans et puis surtout au début des années 2000, l'Afghanistan qui sera la plus longue guerre de l'OTAN. Oui. Et puis la troisième rupture, c'est finalement aujourd'hui, de 2014, fin de l'opération en Afghanistan de manière officielle, et puis 2016, surtout l'élection de Trump et le Brexit, qui ont finalement un impact assez lourd sur la manière dont l'OTAN travaille, l'OTAN se conçoit, puis l'OTAN finalement perçoit son futur.
Et alors dans ce contexte, aujourd'hui, quelles sont les nouvelles missions de l'OTAN? Et puis, est-ce que l'OTAN assure véritablement notre sécurité, Guillaume Lasconjarias?
Alors, c'est une question, à mon avis, assez intéressante à se poser. Je commencerai finalement par une boutade. Si l'OTAN n'avait plus aucun rôle, pourquoi diable aurait-on encore autant de pays qui veulent finalement s'y associer? La réponse à cela, elle est finalement assez évidente, c'est que par l'article 5, qui est toujours le principe de défense collective, finalement c'est arrimer les États-Unis à l'Europe et arrimer les pays qui intègrent l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, en étant sûr qu'à un moment ou un autre, peut-être, en cas de crise, les Américains seront là.
Mais ça, ça ne risque pas justement d'être de moins en moins vrai si, évidemment, la politique de Donald Trump se poursuit?
Alors, je pense qu'il faut quand même aller au-delà des tweets
de Donald Trump. Des effets
d'annonce. Tout à fait. Trump, paradoxalement, son administration n'a jamais été aussi impliquée dans les opérations de réassurance ou de défense, finalement, des intérêts américains en Europe. Il faut voir les dépenses fiscales pour l'année 2017, 2018 et 2019. Elles sont considérables et notamment, elles ont gagné à peu près 23% en année constante pour, justement, des opérations dites de réassurance en Europe. Ce qui montre bien que les États-Unis, au-delà des effets d'annonce, sont présents. Cela dit, il y a une part assez importante, c'est que Trump ne cesse de le réaffirmer, et c'est quelque chose qui est... Il le fait avec sa faconde et son style habituel. Il faut que les Européens dépensent plus. Et c'est là, en fait, le problème.
Oui, parce qu'il y a principalement une question d'argent. Mais alors, justement, le fait d'être dans l'OTAN, est-ce que ça ne permet pas de mutualiser les dépenses militaires, notamment pour les Européens, et autrement dit, d'économiser un peu sur ces dépenses-là?
Ça a toujours été le propre de l'Alliance, de pouvoir travailler ensemble et de faire, finalement...
Donc, c'est un intérêt évident, celui-là.
Tout à fait. Là où, en revanche... Trump, finalement, muscle le débat, c'est en disant qu'il est prêt à reconsidérer la position des Américains et potentiellement peut-être même à quitter ou à faire quitter les États-Unis à l'OTAN. En fait, ça lui demanderait beaucoup plus d'efforts que cela, parce que le Congrès s'est déjà refusé à cela, mais ça met une sorte de pression sur les Européens qui, en fait, de facto, haussent leurs dépenses.
Et puis alors, dernière question, Guillaume Lascon-Jarias. Là, évidemment, l'existence de l'OTAN est en quelque sorte justifiée par les nouvelles menaces, je mets ça entre guillemets, que constitue la Russie.
Alors, la Russie est-elle une nouvelle menace existentielle
alors,
pour l'OTAN?
Plus, en tout cas, ça n'est plus l'URSS, mais la Russie est un pays avec lequel on peut imaginer des tensions, je mets tous les conditionnels nécessaires.
Il y a effectivement des tensions, mais en réalité, vous avez deux écoles qui s'affrontent, y compris au sein de l'OTAN. Les anciens pays de l'Est et certains en Europe qui considèrent que c'est la Russie qui est la priorité, et notamment c'est les opérations de réassurance dans les États baltes, en Pologne, dans la mer Noire. Mais vous avez aussi les pays du Sud, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, la Turquie, qui estiment que le danger principal vient du terrorisme, de la crise migratoire, des questions d'instabilité à nos portes, qui en fait poussent l'OTAN à devoir négocier entre le Sud et l'Est, et donc à approcher la défense sur un angle de défense à 360 degrés.
Merci beaucoup Guillaume Lascon-Jarias. Je rappelle que vous
Merci
êtes
beaucoup.
Historien et que vous êtes chercheur à l'IRENCO, l'Institut de recherche sur les environnements complexes. 7h21 sur France Culture.